Radio Django. Culture.
On démarre une découverte littéraire avec toi, Jean-Luc. Bonsoir. Tu es allé à la rencontre de Basta.
Oui, alors comme chaque mois, on va découvrir un bouquin. Donc, je ne vais pas parler du bouquin maintenant, hein, parce que
on en parlera
Laurent
après.
Il va détailler tout ça. Donc, voilà, il va participer à ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre. Je pourrais donner mon propre avis tout à l'heure. Mais c'est bien d'écouter Laurent qui va vous présenter ce livre.
Eh bien, c'est parfait. Alors, du coup, on se rend avec toi, Jean-Luc, et ton micro surtout, direction le chemin du Petit Rocher, dans la librairie Basta. On pousse la porte et on y va.
Alors aujourd'hui, nous sommes à la librairie Basta, située au Petit Rocher 4 à Lausanne, en compagnie de Laurent, l'un des libraires. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Quelle est la proposition de ce mois de février propice à la lecture au coin du feu?
Pour être au coin du feu, cette fois-ci, je vous propose une bande dessinée. Je vous propose en fait une enquête journalistique. C'est une collaboration entre un grand reporter, ce faire de RTL, qui s'appelle Benoît Colomba, et un auteur de bande dessinée qui s'appelle Étienne Davodeau. Et cette bande dessinée, c'est paru aux éditions Futuropolis. Ça s'appelle « Cher pays de notre enfance ». Et c'est sous-titré « Enquête sur les années de plomb de la Ve République ».
Joli paradoxe, ça, déjà dans le titre.
Tout à fait. C'est une bande dessinée qui est très particulière, c'est très étonnant. Moi, j'ai jamais lu un truc comme ça. C'est tout à fait édifiant. Colomba et Davodeau vont nous expliquer ce qu'est le SAC. SAC, c'est un acronyme pour « Service d'action civique ». Et c'est une association qui se crée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et un peu après pour en fait permettre la mise en place du pouvoir gaulliste et surtout pour assurer son maintien, particulièrement pendant les événements de 68. Les gens qui le créent au début, c'est des camarades de Gaulle, c'est des militaires, des gens assez haut placés, on va dire, qui ont une image assez respectable. Mais cette association, elle va... où les gens ont une carte de membre avec le petit drapeau français, ça fait très joli tout ça. Ces gens vont participer à quelques coups de main, on va dire, pas très reluisants. Et pour faire ces coups de main, le SAC va avoir besoin de recruter des gens, des gros bras, des brutes, pour faire le sale boulot.
Donc il y a un glissement de l'organisation.
Il y a un glissement, et en fait, c'est pas tellement un glissement, il y a un maintien des deux couches. Il y a et une face présentable, et une face très très crasse à ce service d'action civique, qui a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec le civisme. C'est par exemple des gens qui vont aller tabasser des étudiants pendant les années 68, c'est des gens qui vont aller faire des coups de main contre les communistes, parce qu'ils sont pas du bon bord, c'est des gens qui vont aussi faire 2-3 saloperies pendant la guerre d'Algérie, c'est des gens qui vont pas mal s'occuper de tout ce formidable univers en France, qui est la France-Afrique, qui vont s'occuper de faire voyager des mallettes d'argent, de maintenir des liens troubles avec les dirigeants sur le sol africain. C'est vraiment tout un monde.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment des liens quand même avec le pouvoir politique, avec avec les ministres ou...
Ils ont des liens énormes avec les dirigeants. Dans l'appareil politique français, beaucoup de gaullistes et descendants gaullistes ont leur carte du service d'action civique. Les gens payent une cotisation, une petite cotisation, assez misérable d'ailleurs, et puis ils servent de maintien de l'ordre, par exemple pendant des manifestations, ils font des choses en fait que des militants de partis politiques feraient, mais toujours aussi avec ces actions nettement moins reluisantes. En fait, on se rend compte que tout l'appareil politique et tout l'appareil judiciaire français est assez profondément infiltré ou gangréné par ce service d'action civique. Pas tellement infiltré parce qu'il n'est pas... Il n'est pas illégal. Il existe, il a une reconnaissance officielle. C'est une véritable institution. Mais ce qui est moins connu, c'est cette habitude de recruter des gens qui sont directement issus du grand banditisme pour faire des sales coups. C'est souvent des gens, par exemple, au tout début du SAC, les gens qui se lancent dedans, il y a pas mal d'anciens résistants. Dans la résistance, il y a des drôles de courants qui se sont recoupés. Et il y a des gens qui vont devenir des gaullistes après, et puis il y a des gens qui vont devenir des truands.
passé par des gangs lyonnais aussi qui ont pas mal d'influence en une époque par rapport à trouver de l'argent.
Tout à fait, tout à fait. Un des grands questionnements en fait de cette bande dessinée, c'est comment ce service d'action civique se finance ? À quoi sert l'argent de ce financement ? Les deux auteurs, Étienne Davodeau et Benoît Colombat, pour ça en fait vont nous en parler au travers de deux affaires judiciaires. La première, c'est le meurtre du juge Renaud. Le juge Renaud, c'est un juge lyonnais. Une espèce de juge assez flamboyant, comme ça, incorruptible, une espèce de chevalier, c'est vraiment tout un personnage. Hein. Très engagé contre la lutte contre le banditisme à Lyon. Ce juge va se faire descendre parce qu'il commence à enquêter sur le casse du siècle, qui est le hold-up de Strasbourg, où ce qu'on pense être le gang des Lyonnais arrive à braquer une somme folle, et l'argent n'est jamais retrouvé. Et le juge Renaud, lui, se penche sur ce dossier. Il est en train de se douter, gentiment, que, en fait, l'argent n'est pas resté dans les poches du gang des Lyonnais, mais va partir dans les fonds du service d'action civique. C'est ce qu'on comprend. Et il va se faire descendre de 2-3 balles, sans qu'on retrouve d'ailleurs jamais les auteurs du crime. C'est pas élucidé, on sait pas exactement. On se rend compte que cet argent-là a probablement servi à financer l'ancêtre du parti qui va devenir l'UMP, qui va devenir maintenant les Républicains. Au travers de l'affaire du juge Renaud, ressortent clairement ces liens entre grand banditisme, monde politique et service d'action civique. Les auteurs vont se pencher sur une autre affaire judiciaire qui, alors là, se passe quelques années après, c'est autour du suicide, entre guillemets, du ministre Boulin.
Sous quel président, lui ?
Qui est sous... Sous qui, il est ? J'ai un blanc, ce nom.
Pompidou Giscard, enfin, pour situer l'époque.
Oui, c'est les années 80. Il a été ministre de l'économie. Monsieur Boulin est retrouvé suicidé dans un étang. Donc un ministre en exercice. Hein. Un peu après, on retrouve aussi une lettre. La famille est quand même très étonnée. Il n'a pas l'air de vouloir beaucoup se suicider juste avant son suicide. Et puis surtout, les autopsies sont bâclées, les renseignements généraux arrivent tout de suite sur les lieux et demandent aux gendarmes de dégager, en fait. Ils leur prennent l'enquête. Les lieux du crime sont mal fouillés, les traces sont... On s'en fout, en fait. On cache la vérité. Les autopsies, qui seront bâclées et orientées au début, qui seront refaites plus tard, tendent clairement à montrer qu'il ne s'est pas du tout suicidé, ou en tout cas pas du tout comme on l'a retrouvé. On le retrouve dans une position très étrange, un peu accroupi, la tête dans l'eau, dans un étang qui fait 50 cm de haut. Il est censé avoir pris des barbituriques, mais la dose qu'il a dans le sang est ridicule. En fait, on se rend compte que si on prend cette même dose, on peut tout à fait rester lucide. Enfin, ça pose pas de problème, quoi. C'est pas du tout assez pour se noyer. Peu de temps avant, on apprend que Poulain est en train de sortir des dossiers également. Il est en train de se rendre compte de comment le parti a été financé. En tant que ministre de l'économie, au vu de sa position politique, il a pu se rendre compte de où venait l'argent. D'où venaient les valises d'argent de la France-Afrique ? D'où venait cet argent qui a financé le parti dont il est issu ? En reconstituant plusieurs témoignages, sa fille, la fille de ses adversaires, des anciens membres du service d'action civique, des juges, des policiers, on se rend compte qu'en fait, Boulin est un ministre sous pression. On lui dit clairement qu'il faut qu'il la ferme. Il faut pas qu'il ait remué ça, mais alors pas du tout. Il semblerait qu'en fait, il n'ait pas vraiment pris ça en compte. Il avait vraiment envie de sortir. Il a poursuivi ses investigations, et il semblerait que ça lui ait été fatal. Et le journaliste, Benoît Colombat, a d'ailleurs écrit un livre en 2007 qui s'appelle « Un homme à abattre » et qui est exactement sur l'assassinat du juge Boulin. Donc, le récit, là, en bande dessinée, est extrêmement bien documenté. Il y a eu une enquête avant.
Le fait de choisir de faire une bande dessinée historique, de décrire ces événements de cette manière-là, qu'est-ce que ça peut apporter justement ?
L'avantage de la bande dessinée, c'est que c'est un moyen très direct, très facile d'accès, je pense. Je ne sais pas si moi, je serais allé aussi facilement aller lire une enquête sur une affaire politique en France. Je ne pense pas. Là, avec le talent de Davodeau, c'est un auteur de bande dessinée qui est assez engagé, qui fait un travail vraiment de qualité. C'est aussi un type qui a une grosse fibre sociale. Ses parents sont des syndicalistes. D'ailleurs, il a raconté l'histoire dans une bande dessinée qui s'appelle « Les mauvaises gens », où c'est les débuts du syndicalisme en France. C'est vraiment très, très intéressant. Il s'est aussi penché sur, par exemple, un village qui se retrouve avec un projet de chantier d'autoroute qui passe sur leur commune et leur combat. C'est quelqu'un qui a une... qui a déjà l'habitude de faire de la BD reportage, on va dire, qui a un certain talent pour être pédagogue, pour bien expliquer, pour mettre les choses en situation. C'est ça aussi, ça l'avantage de la bande dessinée, c'est parce que, certes, écrit, mais c'est aussi visuel. Ça nous met dedans.
C'est une belle collaboration avec le journaliste.
C'est une excellente collaboration. Et ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, dans la bande dessinée, ils se mettent eux-mêmes en scène pendant leur enquête. On voit la réaction de certains de leurs interlocuteurs quand ils leur disent qu'ils vont faire l'enquête en bande dessinée. Ils sont un peu pas forcément convaincus. Mais moi, je pense que cette bande dessinée risque d'avoir pas mal d'impact, ou aurait peut-être plus d'impact que si c'était juste une enquête sous forme de livre.
Et quel ton ils adoptent, didactique, narratif ?
C'est comme regarder un documentaire, c'est très narratif, c'est une enquête journalistique. On fait des ellipses parfois, on revient en arrière, on nous réexplique, on se met à la place des personnages à l'époque. De temps en temps, on a sous nos yeux les scènes recréées, la bande dessinée leur permet de revenir dessus. C'est vraiment bien foutu.
Vous pouvez nous rappeler le nom du titre une nouvelle fois ?
Alors ça s'appelle « Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5e République ». C'est de Étienne Davodeau et Benoît Colomba et c'est paru aux éditions Futuropolis.
Alors merci Laurent pour cette suggestion. Nous rappelons que vous pouvez trouver ce titre à la librairie Basta, situé au Petit Reste 4 à Lausanne. Merci.
Merci.
Alors Laurent, lui, il a bien aimé ce livre. Toi, Jean-Luc ?
Oui, alors moi aussi, hein, je l'ai vu avec intérêt, beaucoup d'avidité, parce que c'est très très bien construit, le récit est très bien construit, le dessin qu'il porte, magnifique coup de crayon. C'est fascinant et un peu inquiétant de nager dans ces eaux troubles, mais Achetez ce livre, vous pouvez le procurer donc, à Basta, Petit Rocher 4. Soutenez cette magnifique librairie aussi.
Faisons-le, absolument. Tu nous rappelles le titre et l'édition, Jean-Luc ?
Oui, alors « Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5e République chez Futuropolis ». Voilà, c'est le titre.
Voilà, tout est dit. Et puis rendez-vous à la librairie Basta, chemin du Petit Rocher 4, c'est à côté de Chaudron. Ils ont le bouquin, vous dites, voilà, vous avez entendu sur Radio Django, ils sauront de quoi il s'agit. C'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc.
Merci.